France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'ennemi, c'est notre sujet cette semaine. L'ennemi. Ce matin, nous examinons la thèse de Carl Schmitt, selon laquelle la politique, c'est fondamentalement un rapport ami-ennemi. Clausewitz disait que la guerre était le prolongement de la politique par d'autres moyens. Certains auteurs ont renversé la formule, invitant à penser la politique comme la guerre par d'autres moyens. Carl Schmitt est de ceux-là, et peu d'autres sont aussi extrêmes que lui. Marx pensait l'ennemi de classe, mais il envisageait un ailleurs où il n'y aurait plus de classe et où la politique aurait donc d'autres logiques que ce rapport ami-ennemi. Mais Schmitt n'est pas seulement extrême sur le plan théorique. Un des problèmes qu'il pose est aussi d'avoir été nazi. Par éclipse, semble-t-il, mais assez protégé pour se maintenir toute la guerre, professeur à l'université de Berlin et conseiller d'État de Prusse. Il a dit plus tard mépriser ces gens, mais il n'a jamais condamné nettement le nazisme, ni mis fin à son propre antisémitisme explicite. En 1945-46, les Américains l'ont détenu un an, puis à nouveau 10 jours en 1947, car pour le procureur américain Robert Kempner, qui préparait ce qu'on appelle le deuxième procès de Nuremberg, celui des fonctionnaires nazis, Schmitt était une mine d'informations. Finalement, lui-même ne fut pas inculpé. Carl Schmitt, penseur du droit et de la politique, continue d'être lu. On salue souvent en lui le sens de l'ennemi que nos démocraties libérales auraient, paraît-il, perdu. Enfin, depuis quelque temps, me semble-t-il, elles l'ont quand même bien retrouvé. Posons ce matin la question de fond. Vraiment, la politique est-elle rivée à la relation ami-ennemi ? Bonjour Céline Join.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Caen. Vous faites de la philosophie politique et de la philosophie du droit. Vos travaux portent en particulier sur les analyses de Carl Schmitt en droit international. Mais ce matin, vous nous parlerez de la relation ami-ennemi en général dans sa pensée politique. Et bonjour Jean-François Kervégan.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de philosophie politique. Et on se souvient de votre venue ici pour nous parler notamment de Hegel. Vous êtes aussi un des meilleurs spécialistes de ce pays, de l'œuvre de Carl Schmitt. Alors pour commencer cette discussion, voici ce que je voudrais mettre sur le tapis. On dit souvent que nous, démocratie libérale, oublions ou sous-estimons l'ennemi. Pourtant, il y a un contre-exemple évident. C'est la citation qu'on prête souvent à François Hollande pendant sa campagne électorale de 2012. « Mon ennemi, c'est la finance », alors que François Hollande n'a pas employé ce terme.
Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
François Hollande a dit adversaire. Il n'a pas dit ennemi et pourtant... Très souvent, on dit qu'il a dit « ennemi ». Comme quoi, l'idée d'ennemi nous tourmente bel et bien, vous ne trouvez pas, Jean-François Kervégan ?
Certainement, mais la correction que vous venez de faire, j'avoue que, presque tout le monde, je pensais que Hollande avait dit « mon ennemi, c'est la finance ». Cette correction est utile parce qu'elle, d'abord factuellement, mais aussi parce qu'elle nous rappelle que notre conception traditionnelle de la politique est une conception fondamentalement adossée à l'idée d'amitié et non pas d'inimitié. Depuis Aristote, on considère que l'amitié politique est le fondement de la cité. Alors aujourd'hui, on dirait sentiment de co-appartenance ou quelque chose comme ça. Et d'Aristote, je dirais à Derrida, politique de l'amitié, on a toujours... du moins le courant majoritaire de la pensée occidentale, a toujours considéré qu'on doit penser la politique en termes d'amitié à partir de ce qui nous lie et non pas de ce qui nous oppose. De ce point de vue, Carl Schmitt apparaît, et aussi de beaucoup d'autres points de vue, comme le loup dans la bergerie, puisqu'il renverse sciemment, par cette fameuse formule sur laquelle nous allons bien sûr revenir, il renverse sciemment cette conception, on va dire, irénique de la politique pour lui opposer une conception polémique, sinon guerrière, car là-dessus, il y a des nuances à apporter. Carl Schmitt dit bien que la politique, ce n'est pas la guerre.
On va évidemment explorer pendant cette émission. Céline Jouin, votre réaction à ce qu'on vient de dire, la déformation de la phrase de François Hollande, si oui. Significative.
Alors, je dirais que... En fait, il est effectivement, on n'a pas tellement envie de dire qu'on a des ennemis en politique, en démocratie, dans l'horizon humaniste de la politique et de la démocratie moderne. Et ça, c'est une chose que Schmitt remarque. Il a le sentiment véritable de briser un tabou et de dire on ne va plus nommer l'ennemi ennemi. On va parler d'adversaire. En tout cas, lui, il va analyser les choses comme ça. L'ennemi, il va demeurer dans la réalité. L'hostilité demeure, comme même chez les modernes, hein, même chez les civilisés. Mais on va pas oser, dans notre surmoi, on pourrait dire, on va pas oser le nommer ennemi.
Sauf qu'on ose, puisque François Hollande dit adversaire et tout le monde dit qu'il a dit ennemi. Et au passage, je vous pose la question parce que vous évoquez les travaux de Marx, vous évoquez aussi la ligne de Lénine après.
Lénine. Bien sûr.
Et vous dites que Schmitt y fait référence. Précisément, peut-être que beaucoup de gens ont soit désiré, soit redouté que François Hollande fût léniniste. Hein, et donc on lui prête des propos.
François Hollande léniniste, c'est peut-être un petit peu... C'est peut-être un petit peu osé, mais ce qui est sûr, c'est que le souci qu'a Schmitt, on peut comparer à Freud un peu. Freud qui va dire dans la modernité, l'homme civilisé, il reste les pulsions sexuelles. C'est quelque chose que l'homme civilisé aimerait bien s'en débarrasser ou ne pas le dire, hein, ne plus en avoir. Et ben Schmitt va dire la même chose, va dire on aimerait bien ne plus dire qu'on ressent de l'hostilité et surtout que la politique n'ait plus rien à voir avec l'hostilité. Et depuis Kant ou depuis la philosophie des Lumières, on aimerait bien s'en débarrasser une fois pour toutes. Mais en réalité, ce n'est pas que pour les enfants. Donc il veut appeler un chat. Il veut dire, en fait, il vaut mieux appeler l'ennemi ennemi. Donc c'est pour ça qu'il admire Lénine, hein, effectivement. Mais c'est pas le seul représentant de des conservateurs allemands de Weimar qui admire Lénine, parce que justement Lénine a réintroduit un peu le paradigme de la guerre dans la politique.
Bon, alors quand même ce point pour les auditeurs, je voudrais qu'on précise les choses. Il y a quand même énormément, Jean-François Kervégan, de pensées politiques du conflit. Même s'il y a une ligne qui pense également l'amitié et le lien, le conflit, il est pensé par Claude Lefort, théoricien de la démocratie, par Hannah Arendt, sa pluralité est une pluralité agonistique. Il y a du conflit, par Jean-François Lyotard, par Machiavel au XVIe siècle, il y a de la conflictualité. Donc je trouve un peu, parfois, excessif de dire que, à part Schmitt, et peut-être Marx est plutôt en vérité Lénine que Marx, plutôt Lénine, de dire que tous les autres, ils ont pensé juste le lien amical. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Certainement, certainement. Mais je dirais que, après Schmitt, c'est souvent par rapport à ses analyses que cette question a été traitée. Le cas de Arendt est frappant. Arendt dit, dans Les origines du totalitarisme, il y a une note sur Carl Schmitt qui dit que les analyses de Carl Schmitt, donc c'est un livre qui est postérieur au nazisme, et Arendt était parfaitement au courant des engagements de Schmitt, etc., etc. Et elle dit, dans les analyses de Carl Schmitt sur le politique, il y a des choses très intéressantes qu'il convient, et note aussi sur le rapport entre l'égalité, légitimité, etc. Il y a des choses très intéressantes dont il nous faut conserver. Alors, une chose est la conception, on va dire, agonistique de la politique. Il y a du conflit, bien sûr. Il y a des oppositions. Il y a des adversaires. Autre chose est de dire que ce qui caractérise la politique, le geste politique caractéristique, c'est la désignation d'un ennemi. Et ça, c'est ce que fait Schmitt. La politique se définit il y a politique à partir du moment où on peut dire « voilà mon ennemi, voilà celui que je combats ». Par tous les moyens, en rajoutant quand même, on oublie souvent cette précision, Carl Schmitt dit « attention, il ne s'agit pas d'exterminer l'ennemi ». Alors, dans un texte de 1928, ça m'est... et qui va être réédité avec des modifications en 1933, donc juste après la prise du pouvoir des nazis, cette remarque est importante. Il ne s'agit pas d'exterminer l'ennemi, mais, dit-il, de le ramener dans ses frontières, de le ramener dans ses limites. Alors, pour ce qui est de la politique extérieure, c'est assez clair. Un État a un ennemi, ils s'affrontent, c'est ce qu'on appelle la guerre, et ensuite, il y aura un traité. On aura pris l'Alsace-Lorraine à la France, par exemple, et voilà. Et puis ensuite, on est plus ou moins en paix jusqu'au prochain affrontement. Quand on parle de politique intérieure, ça devient plus compliqué.
Alors, on va y venir, mais justement, un mot quand même de la réflexion de Schmitt sur les relations internationales. Schmitt est né en 1888, il a fait des études de droit, il était très catholique. Dans un épisode antérieur de cette série, nous avons évoqué les théories de la guerre juste dans le monde chrétien. Augustin, Thomas, ça l'intéresse pas du tout, ça, Schmitt. Il pense que c'est vraiment pas ce christianisme qui l'intéresse. Il croit au contraire que dans le christianisme, il y a une pensée de l'ennemi beaucoup plus intéressante que les pensées des conditions de la guerre, etc. Est-ce que je me trompe ?
Alors... Il y a une phrase dans la notion de politique ou de Schmitt dans laquelle il dit alors aime ton prochain, ça ne pouvait avoir qu'un sens privé, c'est-à-dire que pour toutes les relations sociales, institutionnelles, politiques, voilà, le christianisme donc ne s'est pas trompé en disant aime ton prochain. Il désignait simplement les rapports éthiques, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a pas empêché les croisades ou la lutte contre l'infidèle ou le turc ou le sarrasin. Et lui, ce qu'il veut, en fait, ce qu'il valorise dans le droit international, c'est la fin des croisades. C'est justement le moment où on a cessé de croire qu'on avait la vérité de notre côté. Et que donc, au nom de l'absolu, on allait pouvoir anéantir complètement les ennemis, et qu'on allait justement considérer l'ennemi comme un égal, quelqu'un qui a de la valeur, et quelqu'un qu'il faut traiter comme un humain. Et pour lui, ça, c'est donc là, il valorise en fait la déthéologisation de la guerre. Hein, donc le moment des traités de Westphalie et ce qu'il appelle la naissance de l'ennemi juste. Ça veut dire de l'ennemi que je considère comme un égal avec lequel je vais signer un traité de paix et que je vais pas anéantir.
Mais quand même, voilà. Pardon, peut-être ma question était ambiguë. Je veux dire par là, en vous interrogeant, que l'idée qu'il faille mettre des conditions à la guerre, et notamment des conditions juridiques et morales, avec toute la source chrétienne qui a aidé à établir cela, il s'en méfie énormément, Schmitt. Je me trompe ?
Alors, il se méfie
De l'envie de... Oui. Encadrer la guerre sur le plan moral et juridique par des instances supranationales.
Alors, il se méfie des justifications morales de la guerre, mais pas des limites juridiques. Mmh. C'est ça le contraire. Il a l'impression de voir ressurgir une forme moderne de croisade avec la naissance de la SDN, avec le pacte Briand-Kellogg, avec les institutions internationales qui veulent établir, justement, qui veulent interdire la guerre, la criminaliser. Donc, au nom de la lutte contre la guerre, on va interdire la guerre. On va dire que c'est un crime, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. De la morale. Et ça, il dit, mais ça va pas empêcher la guerre. Ça va, en fait, faire qu'on va faire la guerre d'une nouvelle manière. Hein. On va présenter toutes les guerres comme des guerres défensives. Par exemple.
Ben voilà, mais ça vient exactement.
On va faire la guerre contre la guerre, contre les États voyous. On va déclarer l'État autre un État voyou au lieu de voir en lui un adversaire légitime ou un ennemi légitime.
Voilà, donc, quand même.
Puisque c'est le mot ennemi qu'il emploie, vous l'avez bien.
Donc... Alors, revenons à la question politique plus large. Donc, et quelques, disons, données biographiques. Carl Schmitt est étudiant pendant la Première Guerre mondiale. Il pouvait bénéficier d'un sursis et ne pas être incorporé. Il a fait la guerre volontairement. Là, de ce point de vue-là, il est extrêmement cohérent. Il s'est engagé. À la fin de la guerre, il a fait partie de toute une génération qui a été très séduite par la pensée de Ernst Jünger, dont je précise qu'il n'est pas devenu nazi, Ernst Jünger, mais il a vraiment pensé l'État fort, la mobilisation des individus contre sans doute quelque chose comme de l'ennemi, Mobilisierung. Vous pouvez en dire un mot, c'est très important ça pour la génération des Allemands qui avaient 20 ans dans les années 20 justement.
Évidemment, enfin, Carl Schmitt, comme une grande partie des intellectuels allemands, a éprouvé la manière dont s'est conclue la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, comme à la fois quelque chose d'inique et comme une rupture, comme l'a dit Céline Join, dans ce que le droit international avait tenté de construire depuis, disons, le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. En effet, le traité de Versailles considère le vaincu, l'Allemagne, l'Autriche aussi, mais enfin bon, l'Allemagne, comme coupable et non pas comme seulement vaincu. Et on intente un procès au criminel de guerre qu'est l'empereur ou qu'était l'empereur Guillaume II. Et pour beaucoup d'intellectuels allemands, cette manière de régler un conflit, l'Allemagne a été vaincue, c'est un fait, cette manière de régler un conflit est absolument inique, car elle réintroduit la morale, le bien, le mal, dans le droit, et elle impose à l'Allemagne des conditions insupportables. Ce qui fait que beaucoup d'intellectuels allemands, même des intellectuels de gauche, ont considéré, durant toute la période de la République de Weimar, que la manière dont s'était réglé le premier conflit mondial devait être remise en question. Et bien entendu, ça, les historiens l'ont montré depuis longtemps, une des causes principales de la montée du nazisme et de sa victoire est ce sentiment qu'il fallait prendre une revanche. Alors pour ce qui est de Jünger est un... Contrairement à Schmitt, parce que Schmitt, il a quand même fait la guerre dans l'état-major à Munich. Jünger était un combattant, multidécoré, etc. Un intellectuel prestigieux, un écrivain remarquable. Je partage avec François Mitterrand cet avis, de considérer que Jünger est un grand écrivain. Et ils étaient en fait des amis personnels, Ernst Jünger et Carl Schmitt. Ils avaient des relations étroites, également le frère d'Ernst Jünger. Enfin, c'était des gens très proches. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est gâté, précisément parce que... Enfin, pas tellement parce que Carl Schmitt avait été nazi, mais parce que Carl Schmitt, en réalité, a toujours refusé de s'expliquer sur son adhésion au nazisme, peut-être par pur opportunisme, enfin, il y a sûrement des tas de raisons, mais il ne s'est pas expliqué là-dessus. Alors que Jünger, comme vous l'avez dit, Jünger, tout en étant un intellectuel de droite, peut-être même de droite dure, comme on dirait aujourd'hui, Jünger s'est toujours tenu à l'écart. Il avait un grand mépris pour les nationaux-socialistes qu'il considérait comme des parvenus, des gens sans intérêt. Et il s'est tenu à l'écart, bien qu'il ait combattu aussi dans la Deuxième Guerre mondiale, en tant qu'officier. Voilà. Et leurs relations ont duré jusqu'aux années 50, puisque Carl Schmitt a écrit une contribution très intéressante, d'ailleurs, à un volume de Mélange en l'honneur d'Ernst Jünger. Et que Ernst Jünger lui-même a dédié à Carl Schmitt certains écrits. Mais quand même, leurs relations sont allées en s'atténuant, et bien qu'ils aient vécu tous les deux très vieux, une centaine d'années, un peu plus pour Jünger, juste un peu moins pour Schmitt, ils n'avaient plus de relations à la fin de leur vie.
Alors Carl Schmitt, dans les années d'après-guerre, règle ses comptes avec un certain romantisme de l'intériorité qu'il juge inapte politiquement. Il écrit un texte en 1919 qui s'appelle « Romantisme politique ». Toutes les théories de l'intériorité, du moi, qui est égotiste selon lui, c'est sa lecture du romantisme, il déteste, ou comme il déteste un certain christianisme de l'intériorité. Et il pense la dictature, par contre, comme moment important qui peut sauver une communauté politique. Il pense notamment qu'il faut faire face, savoir faire face et avoir les moyens institutionnels de faire face à la situation exceptionnelle. Qu'est-ce que c'est, la situation exceptionnelle, Céline Join ?
Alors, effectivement, c'est dans... pardon, excusez-moi. C'est dans le texte sur la dictature qu'il commence à mettre en place une idée qui va faire fortune, qui va être prolongée dans la théologie politique, l'idée que le souverain, c'est celui qui décide de l'état d'exception. Donc le souverain, c'est celui qui désigne l'ennemi.
Donc celui qui décide que c'est une situation exceptionnelle.
Voilà, c'est celui qui décide, puisqu'il y a des articles dans les constitutions démocratiques qui disent, dans certaines conditions, on peut ne pas respecter la limitation du pouvoir, le cadre juridique du pouvoir, qui enserre le pouvoir dans un certain nombre de limites. Dans les situations d'urgence, d'extrême, on peut déroger à cela, et donc il faut déclarer que l'état d'exception est là, et que on va donc déroger au droit. Et finalement, il va définir le souverain et la souveraineté comme celui qui a la possibilité donc de déclarer que l'état d'exception est là.
Parce qu'il y a de l'ennemi ?
Alors qui... Parce qu'il y a de l'ennemi, parce qu'il y a du danger.
Du danger.
Voilà, il y a du danger. Alors ça, c'est... Oui, l'ennemi est dangereux. Ça, c'est pas le premier à le dire. Il est pas le premier à dire ça. Mais puisqu'on parlait des institutions internationales, en fait, on peut très bien, ce schéma-là de l'état d'exception, on peut très bien l'appliquer, et c'est ce qu'il va faire lui-même quand il va parler de l'ONU. Ce qu'il va dire, c'est qu'il voit bien qu'il y a des institutions internationales et un droit international qui est complètement modifié, puisqu'en fait, il prend un peu l'apparence d'un État mondial, avec une légalité qui est au-dessus des États souverains. Hein. C'est plus des traités, le droit international, c'est une supralégalité par rapport à laquelle les États sont comme les individus dans un État.
Et donc, c'était ma question de tout à l'heure, ça, il déteste.
Alors ça, lui, il va dire, il n'aime pas du tout. Mais voilà. Surtout, ce qui le gêne, c'est qu'il va dire, en fait, les grandes puissances. Donc, pour lui, c'est l'Angleterre dans l'entre-deux-guerres, mais après, c'est les États-Unis. Les grandes puissances, qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport à cette législation internationale? Eh bien, en fait, elles vont, donc c'est une légalité internationale, elles vont l'appliquer quand ça leur chante. Voilà. Elles vont pas l'appliquer de la même manière à leurs amis, à leurs ennemis.
À l'inverse, l'État, quand ça lui chante, peut dire « c'est la situation exceptionnelle, donnez-moi des pouvoirs exceptionnels ». Dans la théorie de Schmitt, c'est le souverain qui décide de la situation exceptionnelle. On pourrait lui faire exactement le même reproche.
Alors, le souverain, ça suppose une puissance réelle. D'accord. C'est-à-dire, il y a des États qui, en fait, qui ne sont que nominalement des États, qui vont pas avoir la puissance réelle de désigner leurs ennemis. Il le dit tout le temps. S'il y a un petit État, en fait, il peut pas choisir son ennemi. Il va être obligé de suivre les grands États. Il peut pas, il va être pris dans des coalitions. Un petit État, voilà. Et il y a que les grands États qui vont pouvoir décider de, alors d'abord, l'usage du droit international. Est-ce qu'on l'applique ou on l'applique pas? Bah, des fois on l'applique, puis des fois on l'applique pas.
Alors, voilà. Jean-François Kervégan, merci de revenir un peu là-dessus, cette notion de situation exceptionnelle, mais en ajoutant peut-être un point qui est important, pendant toutes les années 20, et ça va durer, Schmitt accuse la pensée libérale, il faudrait expliquer ça, de mettre des normes partout, de normer sans arrêt le pouvoir souverain, de conditionner son pouvoir au respect d'un certain nombre de droits, justement, et ça, il pense que c'est très dangereux, il les accuse de neutraliser les enjeux autour de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la situation exceptionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire neutraliser? Et qu'est-ce qu'il reproche exactement aux libéraux?
Alors, ce que Schmitt... Enfin, il s'explique très clairement sur son rapport au libéralisme et à la forme politique que le libéralisme a promue, à savoir le parlementarisme, dans un écrit de 1923 ou 24, je ne me souviens plus exactement, qui a été traduit sous le titre « Parlementarisme et démocratie ». Et en s'appuyant notamment sur un auteur ultra-conservateur espagnol du XIXe siècle, Juan Donoso Cortés, qui était un théoricien de la contre-révolution, par tous les moyens, en s'appuyant sur Donoso Cortés, il dit, au fond, ce qui caractérise le libéralisme, c'est son incapacité à prendre des décisions. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, les libéraux nomment une commission d'enquête, dit-il.
Et ils cherchent les normes, oui. Ils cherchent les normes existantes.
Ils nomment une commission d'enquête pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait se passer. Oui. Et il dit, par exemple, à la question de Ponce Pilate, qui faut-il crucifier, Jésus ou Barabbas? Eh bien, le libéral répond en nommant une commission d'enquête. C'est ce qu'il dit exactement. Et c'est ce qu'il déteste dans le libéralisme et dans le parlementarisme libéral, c'est cette incapacité à prendre des décisions ou alors de prendre des décisions sur la base de compromis plus ou moins opaques entre des intérêts plus ou moins avoués. Par exemple, les intérêts que représentent les différents partis, y compris d'ailleurs le parti catholique, le Zentrum, qui était le parti des catholiques pendant la République de Weimar. Finalement, les compromis et les compromis labiles, dit-il, sont dans l'essence du libéralisme.
C'est ça, neutraliser le compromis, c'est ça qu'il appelle neutraliser la gravité des conflits.
Oui, neutraliser par le compromis, c'est une méthode parmi d'autres. Raison pour laquelle, dans un texte de 1931. Qui s'appelle Le gardien de la Constitution, dans le cadre d'une polémique avec Hans Kelsen, Schmitt dit, ben voilà, il faut que le président du Reich, c'était Hindenburg, mais ait le pouvoir de décréter une situation d'exception. La République de Weimar était dans une situation de crise totale, pas de majorité gouvernementale, un peu comme la 4e République française à la fin de... Enfin, en permanence d'ailleurs. Donc il faut que le président de la République dispose des moyens de gouverner, même s'il n'y a pas de majorité parlementaire.
J'apprécie que vous ne parliez que de la 4e République. Ne parlez pas du présent. Les auditeurs feront les liens qu'ils veulent. Allez-y.
Oui, voilà. Non, voilà. Tout à fait.
Bon, alors neutraliser.
Et on pense à De Gaulle également, bien sûr.
Et peut-être à d'autres choses, en ce moment, au sens large.
Voilà.
Neutraliser les conflits avec l'ennemi, c'est ce que dit Schmitt, notamment dans un texte de 1929, qui s'intitule « L'ère des neutralisations et des dépolitisations », qui sera réédité en 1932. Et donc c'est très clair, dépolitiser, c'est ce que font les libéraux qui neutralisent, repolitiser, comprendre ce qu'est le politique, c'est comprendre l'acuité du rapport ami-ennemi, ne pas chercher à le neutraliser. Et cela, il le dit à peu près au même moment, dans un texte de 1927, la notion de politique, qui est également rééditée ensuite en 1932. Je vous propose d'écouter un extrait tout de suite de la notion de politique de Carl Schmitt.
La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Elle fournit un principe d'identification qui a valeur de critère, et non une définition exhaustive ou compréhensive. Dans la mesure où elle ne se déduit pas de quelque autre critère, elle correspond dans l'ordre du politique aux critères relativement autonomes de diverses autres oppositions, le bien et le mal en morale, le beau et le laid en esthétique, etc. Elle est autonome, en tout cas, non pas au sens où elle correspondrait à un champ d'activité original qui lui serait propre, mais en cela qu'on ne saurait ni la fonder sur une ou plusieurs de ses autres oppositions, ni y réduire. Le sens de cette distinction de l'ami et de l'ennemi est d'exprimer le degré extrême d'union ou de désunion, d'association ou de dissociation. L'ennemi politique ne sera pas nécessairement mauvais dans l'ordre de la moralité, ou l'est dans l'ordre esthétique. Il ne jouera pas forcément le rôle d'un concurrent au niveau de l'économie. Il pourra même, à l'occasion, paraître avantageux de faire des affaires avec lui. Il se trouve simplement qu'il est l'autre, l'étranger. Et il suffit pour définir sa nature qu'il soit, dans son existence même et en un sens particulièrement fort, cet être autre, étranger, et tel qu'à la limite, des conflits avec lui soient possibles qui ne sauraient être résolus ni par un ensemble de normes générales établies à l'avance, ni par la sentence d'un tiers, réputé non concerné et impartial.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La politique est-elle rivée à la logique ami-ennemi? C'est notre question ce matin et nous interrogeons l'œuvre de Carl Schmitt. Je suis en compagnie de Jean-François Kervégan et de Céline Join. Céline Join, c'est difficile de comprendre ce qu'est l'ennemi pour Schmitt. Il le définit peu, il le détermine en tout cas peu et notamment dans le texte que nous venons d'entendre. Il se trouve simplement qu'il est l'autre, l'étranger. C'est très dangereux de parler comme ça. Et peut-être me direz-vous que si, quand même, il est plus précis ailleurs. Peut-être que je n'ai pas tout lu. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce que c'est que cet ennemi autre étranger pour Schmitt?
Alors, je peux essayer, mais vous avez raison, Géraldine. C'est extrêmement problématique de dire que l'ennemi, c'est l'autre, l'étranger. Ça me semble beaucoup plus problématique que de dire... Il y a de la conflictualité dans la politique. Il me semble que là, il franchit un pas qu'il est difficile. Enfin, il est difficile de le suivre là. Ouais. Alors, il est évidemment difficile de suivre là du fait que, par sa biographie, c'est quand même pas sans rapport avec le fait que il a été antisémite. Et que, par exemple, il a justifié les lois anti-juives de Nuremberg en 1935 qui faisaient des juifs allemands des étrangers dans leur propre pays. Donc il est en train de nous dire l'étranger est menaçant.
C'est difficile clair de pour ne pas vous. Entendre ça. Dès 27, on est en 27 et le texte est repris en 32. Jean-François, on va parler de l'évolution dans les années 30 de Schmitt, où ce sera pour le coup clair et à un moment, les juifs seront nommés. Mais à vous, Jean-François Kervégan, commentaire de ce texte quand même des années 20 d'abord.
Oui, oui. Alors, je suis d'accord avec ce que vient de dire Céline Join. ne nous, nous cachons pas. Il y a tout un débat qui a eu lieu depuis 2005 en France et bien avant en Italie et dans d'autres pays sur la question de savoir est-ce que le fond de la pensée de Schmitt, ce qui gouverne ses constructions intellectuelles brillantes, etc., etc., c'est l'antisémitisme. Et en 2005, il y a eu une polémique dans laquelle on m'a un peu pris à partie. Je me suis défendu avec les moyens que je pouvais, en disant « Mais au fond, vous voulez masquer le fait que le fond de la pensée de Schmitt, c'est l'antisémitisme. » Selon moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Je pense, en revanche, que la conception du politique défendue en 27 par oui. Schmitt ne rendait pas impossible
mais voilà,
je ce crois... qu'il allait oui. plus tard devenir, à savoir... Un antisémite, de conviction. Je ne sais pas s'il était un antisémite de conviction. On a fait remarquer, par exemple, que la théorie de la Constitution, le grand livre de droit constitutionnel de Schmitt, était dédié à un juif. Un ami qui était juif.
Moi, je suis étonné que vous alliez tout de suite sur l'antisémitisme. Je pense, comme vous, que c'est la pente est là. Mais c'est vrai que l'ennemi, au départ, n'est pas nommé comme juif.
Bien sûr.
Et je vais même dire à un moment, je crois que l'ennemi, c'est précisément, enfin, c'est une hypothèse que je vous soumets, c'est précisément les pensées qui neutralisent la question de l'ennemi. C'est précisément les libéraux. Mmh. Et c'est seulement dans les années 30 qu'il fera tout se rejoindre, puisqu'il accusera... en 1934, dans les trois types de pensées juridiques, puis en 1938, dans son Léviathan consacré à Thomas Hobbes, il dira clairement que le ferment, la racine de la pensée libérale qui neutralise les conflits, c'est les juifs. Là, il fera le lien. Mmh. Il dira qu'il y a un front juif, et là, il n'aura aucune rigueur, puisqu'il branchera Marx avec Spinoza, avec Heine, avec les constitutionnalistes américains, enfin, il mélangera tout, et il dira tout ça, c'est le libéralisme, et tout ça, c'est les juifs. Mmh. Mais au départ, on a plutôt l'impression que l'ennemi, c'est précisément celui qui nie qu'il y ait de l'ennemi. Vous ne trouvez pas, Jean-François Kervégan ?
Oui, vous avez raison. En même temps, j'hésite un peu à vous suivre complètement, parce que dès 1920, Carl Schmitt dit « Moi, j'ai assisté à la révolution allemande ». J'ai vu la République soviétique de Munich se mettre en place et puis être écrasée ensuite. Et je me suis posé la question à l'époque, est-ce qu'il faut les suivre ou non ? Est-ce qu'il faut être avec Lénine ou contre Lénine ? Et quand même, l'ennemi, c'est aussi... on dirait qu'il a deux ennemis.
Oui.
Le marxisme et le léninisme en particulier, et le libéralisme. Et je dirais qu'effectivement, intellectuellement, Carl Schmitt a plus d'affinité avec l'ennemi marxiste ou marxien, marxiste, léniniste, qu'avec le libéralisme. Avec lui, il n'y a pas de compromis possible, précisément parce que le libéralisme, c'est le culte du compromis sur tous les plans. Et par conséquent, oui, je vous rejoins. D'ailleurs, il y a un élément intéressant à ce propos, c'est qu'après-guerre, Schmitt a eu toute une correspondance, nous l'avons traduite il y a quelques années, avec Alexandre Kojève. Et dans cette correspondance... de façon étonnante, à première vue, ils sont à peu près d'accord sur tout. Ils disent, bah oui, au fond, l'impérialisme américain et l'impérialisme soviétique sont les deux faces d'une même médaille, etc., etc. Et ils ont comme commun adversaire le libéralisme. C'est assez clair dans le cas de Kojève. C'est clair également dans le cas de Schmitt. Donc, oui, le libéralisme, c'est-à-dire l'indécision érigée en politique... lui apparaît comme ce qui rend la politique impuissante et par là même impossible. Voilà.
Le libéralisme est sans doute le premier ennemi de Schmitt dans les années 20, plus encore que le marxisme qui a quand même un certain sens de l'ennemi, notamment avec Lénine. Puis tout ça va se rejoindre. Et tout ça va se rejoindre dans un énorme délire antisémite des années 30, où pour le coup, il met tout le monde, il parle d'un front juif, il met tout le monde dedans, les Rothschild, Spinoza, et il les appelle en 1934 les peuples sans terre, sans État, sans Église, autrement dit, qui n'ont pas le sens de l'État, du Rex, comme il dit, du roi, du Führer, il le dit clairement, ils sont obsédés par la Lex, la loi. Au fond, Céline Join, l'antisémitisme va permettre de tout amalgamer et d'aplatir un vrai problème dans les années 20. Quel était l'ennemi premier de Schmitt dans les années 20 avant qu'il se mette à délirer?
Alors, dans les textes des années 30, bon, sont très difficiles à lire, mais il faut les lire, hein, évidemment. Je crois qu'il y a vraiment un antisémitisme. Je crois qu'il est vraiment un antisémite convaincu. Et puis, ce sont des schèmes, enfin, d'associer le juif au capitalisme et à celui qui n'a pas de terre, au cosmopolitisme. Tout ça, ce sont les schèmes basiques. Hein, ce sont des lieux communs de l'antisémitisme. Mais alors, c'est vrai que le texte qu'on vient de lire dans ce texte-là, il dit l'ennemi, c'est l'autre, l'étranger. Mais il ne dit pas que cela dans la notion de politique. Et je crois qu'on aurait arrêté de lire Schmitt depuis longtemps s'il y avait que cela. C'est-à-dire, je pense, moi, quand il dit, dans ce texte, en fait, il y a politique quand il y a quand il y a une conflictualité intense. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus vague quand il nous dit, en fait, la politique ne se définit pas par son contenu, c'est pas une sphère d'activité propre. En fait, tout peut être politisé, par exemple, l'écologie, on pourrait dire aujourd'hui, par exemple, la religion, on le sait bien, il y a des périodes où c'est plus ou moins politisé. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a un conflit politique sur je ne sais quoi, les timbres-postes. Bon, c'est peu probable, mais après tout, tout est politisable du point de vue du contenu. Ce qui définit la politique, pour lui, c'est l'intensité du conflit. C'est pas du tout le contenu, ou c'est pas... Bon, et quand il dit cela, à mon avis, c'est différent que de dire l'ennemi, c'est l'autre, l'étranger, puisqu'il y a une sorte de formalisme au fond du conflit, et l'ennemi pourrait être, en fait, l'ennemi pourrait être un résultat de la conflictualité politique. L'ennemi pourrait être désigné après par rapport à un désaccord, mais ne serait pas forcément l'étranger. Hein. Ça pourrait être celui avec lequel je ne suis pas d'accord sur une question X. Bon.
Alors on relit donc Schmitt en reconnaissant que sa notion d'ennemi non seulement est vague, mais est dangereuse lorsqu'elle stigmatise celui qui est autre. En général, mais on se dit, voilà, on va le prendre pour penser la radicalité des conflits, pour politiser certaines questions, si je vous ai bien comprise. Écoutez, effectivement, un autre extrait de la notion de politique, où on voit bien qu'une fois de plus, son obsession, c'est la neutralisation de tout, alors qu'il y a des conflits graves. Peut-être que ça va vous plaire davantage, peut-être que c'est ce Schmitt-là qu'il faut lire, je ne suis pas si sûre, mais écoutons.
Dans un dilemme qui le caractérise bien, le libéralisme, pris entre l'esprit et l'économie, a tenté de réduire l'ennemi à un concurrent du côté des affaires et du côté de l'esprit à l'adversaire que l'on affronte dans un débat. Pourtant, on ne saurait raisonnablement nier que les peuples se regroupent conformément à l'opposition ami-ennemi. Que cette opposition demeure une réalité de nos jours et qu'elle subsiste à l'état de virtualité réelle pour tout peuple qui a une existence politique. L'ennemi ne saurait être qu'un ennemi public, parce que tout ce qui est relatif à une collectivité, et particulièrement à un peuple tout entier, devient de ce fait affaire publique. Ennemi signifie hostis, et non inimicus. Et c'est bien dans ce rappel d'un antagonisme concret qu'est donnée la nature des relations politiques. La guerre n'est que l'actualisation ultime de l'hostilité. Ceci n'implique pas qu'elle soit chose courante, chose normale, ni d'ailleurs que l'on y voit une solution idéale ou désirable. Elle reste néanmoins présente, nécessairement sous forme d'une possibilité du réel, tant que la notion d'ennemi garde son sens. Et s'il n'y avait plus sur Terre que de la neutralité, ce serait la fin, non seulement de toute guerre, mais aussi celle de la neutralité elle-même, tout comme c'est la fin de toute politique. Quoi qu'il en soit, est politique tout regroupement qui se fait dans la perspective de l'épreuve de force. Et par conséquent, pour autant qu'elle existe, l'unité politique est le facteur décisif. L'autorité souveraine en ce sens qu'il lui revient nécessairement et par définition de trancher la situation décisive, tout exceptionnelle qu'elle soit.
Jean-François Kervégan, il est quand même clair là que la politique, ce n'est peut-être pas la guerre, mais c'est une guerre. Ce texte est clair là-dessus. Et ça pose évidemment la question de savoir ce que doit faire, lorsque la guerre est intérieure, l'État souverain. Il n'y a pas de tiers, il n'y a pas d'impartialité. Il doit prendre parti, c'est ça?
Oui, certainement, mais il dit quand même, dans ce même texte, la guerre n'est que l'actualisation ultime de l'hostilité. Ouais. Et donc, il dit ailleurs dans le texte, ça serait une erreur de croire que la politique, c'est la guerre permanente, etc. Ce qui me semble intéressant et mérite d'être retenu, si l'on veut, dans cette conception du politique, c'est, ça a été évoqué tout à l'heure, ce que j'ai appelé, il y a quelques années, la déterritorialisation, pour employer le vocabulaire deleuzien, de la politique à laquelle procède Schmitt. Et Céline Jouin y a fait allusion tout à l'heure. Le politique n'est rien d'autre que un flux d'intensité qui n'a pas de lieu propre. Alors, ce qui permet à Schmitt de dire, attention, c'est une erreur de penser le politique à partir de l'État. C'est le contraire. C'est l'État qui doit être pensé à partir du politique. Et d'ailleurs, dans la préface écrite en 1962 pour la réédition de la notion de politique, il écrit en toutes lettres, au début de la préface, l'ère de l'État est terminée, il n'y a pas un mot à rajouter, c'est fini. Ça ne veut pas dire que la politique est morte, tout au contraire. Et il écrit la théorie du partisan, parce qu'il trouve très intéressant, il trouve que les guerres de partisans, donc des Vietnamiens en l'occurrence, c'est l'exemple, mais aussi l'OAS, étonnant pour nous, il met sur le même pied, en quelque sorte, Ho Chi Minh et Salan, le général Salan, le chef de l'OAS, en disant, voilà, eux, ils font de la politique, et ils savent définir l'ennemi, l'un mieux que l'autre, d'ailleurs, Ho Chi Minh mieux que Salan, puisque Salan avait deux adversaires, le FLN algérien, mais aussi le gouvernement du général de Gaulle. Et c'est ça qui selon lui, on ne peut pas avoir deux ennemis. Il faut avoir un ennemi. Et faire de la politique consiste à savoir définir cet ennemi et l'affronter. Donc c'est ce que fait Ho Chi Minh avec le général Giap pendant les guerres du Vietnam, contre les Français d'abord, contre les Américains ensuite. Cette conception de la politique me paraît finalement ce qui est intéressant chez Carl Schmitt, l'idée que le politique n'a pas de lieu. Il peut être partout, il peut envahir tous les domaines et il peut aussi, il peut aussi envahir tous les domaines en même temps. Et ça, c'est ce qu'il appelle l'état total.
Il faut le laisser être comme ça. Vous dites qu'il ne croit plus autant qu'avant dans l'état souverain pour, non pas pour dépasser les conflits, mais pour les résoudre dans la guerre. Il prend parti l'état, il ne croit pas dans l'état impartial. Vous dites qu'il n'y croit plus. Vous dites aussi, Céline Jouin, que les institutions supra-étatiques, ils s'en méfient comme de la peste, parce qu'elles veulent, elles aussi, comme on le voulait avant, neutraliser les conflits. Mais donc ça lui plaît tout ça, quoi. Le rapport ami-ennemi, la guerre civile interne et externe, l'OAS, le Vietnam, là, tout ce que vous venez de dire. En fait, il n'y a pas de solution, et c'est bien. Enfin, le politique, est-ce qu'il est ? Il est content que ce soit comme ça ?
Alors, la guerre civile interne, ça ne lui plaît pas du tout. La guerre externe, oui, enfin, c'est pas que ça lui plaît, mais il dit c'est pas la peine de l'interdire parce qu'on va pas la supprimer. Donc, autant la reconnaître comme un fait qu'on supprime pas pour avoir prise sur elle par le droit. Il a quand même l'espoir d'avoir prise sur la guerre pour la limiter par le droit. Mais il pense qu'il faut tout reconstruire. Il pense qu'il y a un énorme chantier du droit et que le droit n'a plus prise sur le phénomène.
C'est quand même par un État très fort, voire, disons le mot, autoritaire, que se dessine la solution pour lui, Jean-François Kervégan. Il n'y a pas d'autre salut.
Certainement. Enfin, ça, oui. Je n'ai pas connaissance de texte de Carl Schmitt sur les institutions de la Ve République. Mais je pense que la constitution de la Ve République, telle qu'elle a été interprétée par de Gaulle, et bien que cette constitution devait lui plaire, puisque finalement c'était une constitution où le chef de l'État, et c'est resté le cas par la suite, même ça s'est radicalisé, où le chef de l'État dispose d'un pouvoir, y compris, enfin qui peut imposer sa volonté, y compris face aux débats sans fin du Parlement, etc., etc.
Bon, ça, c'est quand même l'article une figure 7, impartiale, normalement. Comment? C'est quand même dans cette Constitution une figure impartiale. Il préside, tandis que le Premier ministre gouverne. Plus personne ne sait ce que veut dire cette phrase, mais enfin, elle existe toujours dans la Constitution. Il est censé être gardien de l'État de droit. Il est censé arrêter d'être à la tête d'un parti et ne pas représenter un parti. C'est pas du tout ce que dit Schmitt de l'État. L'État, il doit s'engager dans la mêlée. Il doit nous protéger, définir l'ennemi, définir l'exception et lutter ennemis. Contre les ennemis, quoi, internes.
Tout à fait, c'est tout à fait vrai. En 1932, Schmitt a écrit un texte absolument remarquable qui s'appelle « L'égalité et légitimité », remarquable par l'analyse à laquelle il procède de la constitution de Weimar et de ses faiblesses. À la fin de ce texte, il préconise tranquillement l'interdiction simultanée du Parti national-socialiste et du Parti communiste, en disant, à partir de l'argument suivant, ces deux partis, qui avaient plus de 50% des voix en 1932, ces deux partis ne reconnaissent pas les valeurs fondamentales de la Constitution. Par conséquent, il faut les interdire. Bon, quatre mois après, il adhère au Parti national
socialiste. Il aime bien les vainqueurs, hein, Schmitt. Il est toujours du côté du vainqueur.
Mais c'est assez intéressant parce que ces dispositions ont été reprises après-guerre dans la Constitution de la République fédérale allemande. Et c'est cette logique qui a permis, par exemple, l'interdiction du Parti communiste allemand dans les années 50, à partir du moment où on considérait qu'il fallait adhérer aux valeurs fondamentales de la Constitution pour pouvoir jouer le jeu constitutionnel. Et cette conception de la politique, qui désigne effectivement aussi des ennemis intérieurs, il l'assume complètement. Il n'est pas le seul à l'avoir assumé. Des démocraties considérées comme libérales, la République fédérale allemande quand même, l'ont fait.
Le problème de l'ennemi chez Schmitt, c'est que on l'a vu, il est assez indéterminé, ce qui permet de remplir la notion un peu comme on veut. Alors, les libéraux qui neutralisent la gravité du conflit sont les ennemis, précisément parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a de l'ennemi. Les juifs, alors c'est clair, on l'a dit. Et puis, il y a un moment, à la fin de sa vie, c'est déjà le cas pendant ses écrits d'incarcération en 47, où l'ennemi, ça devient finalement ma construction pour me comprendre moi-même. Alors, franchement, moi, je le trouve délirant dans les, je vous le dis tout de go, hein, dans les manuscrits de détention. Je suis le dernier représentant conscient du droit public européen et je vais désormais me consacrer à mon origine divine. Enfin, il dit ça, hein, notre origine divine, c'est de lui qu'il parle. Bon, ça veut dire j'ai tout le monde contre moi et je suis le dernier à défendre ce qu'il y avait de bien dans l'histoire du droit en Europe. Et puis après, il le dit de manière moins folle. Dans la théorie du partisan, il écrit « L'ennemi est notre propre mise en question personnelle ». Mais finalement, l'ennemi, c'est une construction fantasmatique chez Schmitt, Céline Join.
Alors, je dirais... Alors, on peut l'interpréter comme ça, et on peut aussi l'interpréter différemment. Donc, il dit dans ce texte, dans la théorie du partisan, qui a comme sous-titre « Note sur le concept de politique ». Donc, quand il voit ressurgir ce qu'on peut appeler le terrorisme, il est l'un des premiers à dire, en fait, la guerre contre le terrorisme, il dit contre le partisan, mais on peut dire contre le terrorisme, va devenir une forme centrale de la guerre. La forme de la guerre entre États va être marginalisée. Donc il dit, oui, l'ennemi est notre propre remise en question, en fait personnifiée. L'ennemi, donc on pourrait dire que là...
L'ennemi est la figure de notre propre question, figure, c'est la traduction exacte. Et c'est pas de lui, c'est d'un poète qui était un de ses amis, cette phrase.
Et qu'est-ce que ça veut dire alors?
En fait, moi je pense qu'on peut y voir en fait une conception existentielle de la politique. C'est-à-dire qu'il ne nous dit pas... il y a un ennemi à ma porte et il faut bien que je me défende, moi et ceux qui me sont chers. Donc, la politique est utile. C'est pas ça qu'il dit. C'est intéressant de voir ce qu'il dit pas. Il ne dit pas non plus, j'ai un ennemi parce que il veut ma place, ou il veut ma nourriture, ou il veut mon homme ou ma femme, c'est mon concurrent, hein, dans un contexte de rareté ou de concurrence. Il ne dit pas ça non plus. Donc, il dit, mon ennemi, c'est celui qui me fait progresser, qui fait que je me connais mieux moi-même. C'est celui qui me met en question intérieurement, celui par qui je me sens mis en question. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'en débarrasser comme ça. Et c'est pour ça qu'il dit, l'ennemi, en fait, il a une valeur. En fait, les ennemis, c'est entre égaux qu'on a des ennemis. Hein, on pourrait penser à ça. Et en fait, C'est pour ça qu'il va développer l'importance de la politique. En fait, il conçoit très bien qu'on puisse vivre dans un monde où il n'y a plus de politique. Hein, il le dit tout le temps, c'est ce qu'il ne veut pas voir advenir. Mais dans un monde où tout est pacifié, sécurisé, tout fonctionne, et on ne s'occupe plus que de son compte en banque.
Non, il préfère la guerre.
Parce qu'il y a un aspect, ce que j'appellerais existentiel. Oui. Hein, il y a un aspect pour lui, il y a un aspect existentiel fondamental, une sorte de ur-phénomène, de phénomène fondamental primitif, qui est le rapport à l'ennemi comme à un égal, qui me met en cause intérieurement, et pas seulement quelqu'un de nuisible, hein, qui peut me faire du mal. C'est pas seulement le nuisible ennemi. Et je crois là, mais Jean-François Kervégan, évidemment, a beaucoup écrit sur la question, je crois qu'il y a un rapport à Hegel. Alors évidemment, c'est du Hegel complètement transformé, mais la dialectique du maître et de l'esclave, c'est-à-dire le fait que le combat avec l'autre soit formateur pour la connaissance de soi, pour la subjectivité, et que ce soit pas quelque chose qui soit lié seulement à la nécessité, mais à la liberté, à la formation de soi et de l'identité, je crois qu'il y a quand même un lien à ça.
Alors, je vais vous rassurer, l'émission est presque terminée, on ne va pas ouvrir le dossier Hegel, en plus il y a un tas de problèmes, il y a une dialectique chez Hegel, il n'y a pas de dialectique chez Schmitt, enfin c'est très compliqué, vous avez écrit ça admirablement, Jean-François Kervégan. Ma dernière question est plutôt celle-ci. On a souvent lu Schmitt en se disant « Oh là là, nos démocraties libérales ne sont plus du tout schmittiennes, elles sont pacifiées, elles ne croient plus qu'il y a de l'ennemi. » Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, pour le coup, l'époque est terriblement schmittienne? Tout le monde voit de l'ennemi partout.
Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. La pensée de Schmitt conserve en ce sens une actualité, y compris néfaste, en France, mais aussi bien sûr ailleurs, songeons à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, où là, la question de la désignation de l'ennemi, de part et d'autre, et jusqu'aux conséquences extrêmes centrales. Mais pour rebondir sur ce que disait Céline Jouin, Schmitt, par exemple, éprouve un grand respect pour les partisans, pour Castro, pour Ho Chi Minh, etc. Il éprouve du respect. Ce sont des ennemis. Pour lui, ce sont des ennemis, mais il éprouve du respect pour eux parce que ils font de la politique. En revanche, il n'éprouve pas de respect pour les libéraux de centre-droit, les sociaux-démocrates, le centre-gauche, etc., parce que ceux-là ne savent pas faire de la politique. Nous devons réapprendre à faire de la politique, c'est, je crois...
Là, ça va bien avec Trump, tout Poutine, tout ça. C'est bien, là. Là pour lui, ce serait
ce sont des
schmittiens, ça, pour lui.
Ce sont des schmittiens scolaires. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you
Et on finit sur cette chanson Enemy du groupe de pop-rock américain Imagine Dragons avec le rappeur américain G.I.D. C'est une chanson de 2021. Merci beaucoup Céline Jouin et Jean-François Kervégan. Les références de vos travaux sont précisées sur le site de notre émission. À présent, la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de l'événement. Voici le pourquoi du comment.
Comment être indifférent aux événements? on appelle l'événement non pas tout ce qui se produit, tout ce qui arrive de manière indistincte, même si d'un point de vue, disons, de science de l'univers, on pourrait avoir cette définition très générale, mais on appelle l'événement, en tout cas dans la vie humaine, tout ce qui vient faire date, tout ce qui vient faire changement, tout ce qui vient perturber un ordre d'une manière positive ou négative, mais en tout cas d'une manière qui vient affecter un sujet. Pour le sujet humain, l'événement est toujours polarisé, il est toujours perturbant, il vient perturber la façon dont nous pourrions nous inscrire dans un ordre immuable, dans un ordre imperturbable. Il vient toujours nous secouer, nous déranger, en quelque sorte. C'est pourquoi on comprend que dans beaucoup de sagesse, et en particulier dans les sagesses antiques, mais dans toutes les religions aussi, dans toutes les religions qui ont pensé des manières de se détacher de ce qui nous perturbe, eh bien le fait de devenir indifférent aux événements, indifférent à ce qui nous dérange, indifférent à cette petite secousse, ce clinamen, comme disait le philosophe Lucrèce dans l'Antiquité, cette petite différence qui vient toujours changer l'ordre du monde, eh bien la sagesse consisterait à se rendre indifférent aux événements. Peut-être justement à les considérer comme une poussière d'atomes, comme chez Lucrèce, à les considérer comme des vapeurs à la surface du monde, comme chez les stoïciens qui pensaient l'ordre logique du monde et l'événement plutôt comme une signification incorporelle, impondérable, qui n'affecte que l'esprit humain qui doit s'en détacher. Évidemment, la sagesse, dans tous ces cas, consiste à construire une sorte de forteresse, une forteresse infranchissable par les seuils critiques des événements, les événements malheureux bien sûr, mais même les événements heureux, puisque le sage stoïcien sait bien par exemple qu'un événement heureux est toujours fragile, qu'un bonheur peut être suivi d'un malheur, et que finalement la sensibilité aux événements, eh bien... est toujours une fragilité pour le psychisme humain qui, même dans le bonheur, au fond, a toujours la peur qu'il soit précaire, qu'un événement vienne en abolir un autre. La sagesse consisterait donc, de ce point de vue, à se rendre indifférent aux événements. Mais cela est-il possible? Est-ce possible tout simplement pour un être qui est lui-même un être vivant, qui n'est pas seulement un être rationnel, contemplant les événements de l'extérieur, les racontant comme le romancier peut raconter ce qui arrive à un personnage pris dans les événements? Nous sommes aussi des êtres vivants, nous sommes affectés par les événements, non pas comme des sujets abstraits qui seraient constitués par des événements, mais véritablement comme des vivants pour qui les événements ne sont jamais neutres. Le mot important, c'est donc le mot d'indifférence. Le sage peut-il se rendre indifférent aux événements s'il admet, au fond, sa constitution, sa condition, au fond, d'être vivant comme les autres, peut-être un peu plus compliqué que les autres, qui peut être affecté par plus d'événements et non pas moins que les autres, des événements qui ne sont pas seulement les grands événements de la maladie et de la mort, mais les petits événements, les petites rencontres, les rencontres interhumaines qui, en effet, pour nous, peuvent aussi décider de nos vies. Peut-être que la sagesse humaine consiste non pas à être indifférent aux événements, mais au contraire à saisir que les vraies différences entre les événements qui ne sont pas seulement ce qu'on nous dit d'important, par exemple à la télévision ou dans les nouvelles, qui hiérarchisent les événements selon des ordres préconçus, mais à se donner soi-même sa grille de lecture des événements de nos vies, de nos événements individuels, de ce qui est important pour nous et pour les autres, mais aussi des grands événements collectifs. Sachons ne pas être indifférents, ce serait au contraire la pire des choses, mais construire une relation critique, pondéré mais radical à la polarité des événements dans nos vies.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Raphaël Rousseau. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine de Bélois, Chaï Magiboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité !